Accent d'Europe, Catherine Roland.
Senyores i senyors, amb els resultats del referèndum de l'1 d'octubre passat, Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent.
Bonjour à tous. Vous venez d'entendre la déclaration faite hier soir par Carles Puigdemont devant le Parlement de Catalogne. 10 jours après le oui au référendum sur l'indépendance de la région, la situation est on ne peut plus confuse. Entre hier et aujourd'hui, s'est jouée une partie de ping-pong. Carles Puigdemont proclamant donc mardi soir l'indépendance de la Catalogne, tout en suspendant sa mise en œuvre, et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy réclamant en fin de matinée d'abord plus de clarté et ensuite que le président du Parlement catalan précise s'il a oui ou non déclaré l'indépendance. On en est là pour le moment. La menace de déclencher l'article 155 pour suspendre l'autonomie de la Catalogne plane toujours et la stratégie du pouvoir espagnol pour contrer les indépendantistes ne fait pas l'unanimité, comme a pu le constater Diane Cambon à Madrid.
Face au défi souverainiste, le gouvernement central menace d'appliquer l'article 155 de la Constitution permettant à Madrid de prendre le contrôle de la région catalane. Alors que pour certains Espagnols, cette riposte arrive trop tard, d'autres estiment que le leader, Mariano Rajoy, a su agir au moment adéquat. C'est le cas de Montse qui tient à préciser qu'elle n'a jamais voté pour Rajoy, mais pense qu'il a su faire face au chantage indépendantiste.
Rajoy agit selon sa personnalité. C'est un homme lent qui pense que les problèmes se résolvent tout seul en les laissant de côté. Cette fois, il semble avoir eu de la chance. Il a fait mine de ne pas négocier, il est resté très ferme et grâce au discours du roi et surtout à l'exil des entreprises catalanes, le président catalan s'est retrouvé dans une impasse.
Une grande partie de la population pense au contraire que le manque d'initiative pour freiner le sentiment indépendantiste a renforcé l'aversion des Catalans envers Madrid. Jorge estime que l'attitude du leader conservateur a été contre-productive.
Depuis que la droite est au pouvoir, depuis 6 ans déjà, le nombre d'indépendantistes en Catalogne a triplé. C'est bien la preuve que son inaction pour régler le problème a encouragé le sentiment séparatiste.
Mais ce qui est le plus reproché au gouvernement central, c'est son manque de dialogue et sa volonté de maintenir le cadre constitutionnel coûte que coûte.
L'exécutif n'a jamais voulu dialoguer. Le Parti populaire n'a jamais envisagé de donner plus d'autonomie. S'il le fait, c'est qu'il n'a pas d'autre choix. Mais en fait, c'est impensable qu'il puisse permettre la souveraineté de la Catalogne. La droite bloque tout. Elle refuse tout changement de la Constitution, rejette une Espagne fédérale. Dans ces conditions, de quoi peuvent bien dialoguer les deux parties?
Les conservateurs au pouvoir espèrent toujours que les autorités catalanes fassent marche arrière et renoncent à leur projet d'indépendance. Seule condition qui pourrait permettre l'ouverture d'une fenêtre de dialogue avec le pouvoir central.
Ajoutons que les socialistes espagnols promettent un futur débat sur la réforme de la Constitution pour voir comment la Catalogne peut rester en Espagne. Et alors que l'Union européenne exhorte les deux parties, Madrid et Barcelone, au dialogue, c'est la Serbie qui attaque Bruxelles. La première ministre serbe, Ana Brnabić, a transmis un courrier officiel dénonçant le double langage de la Commission entre la Catalogne et le Kosovo. Les autorités de Belgrade reprochent en fait le discours de fermeté contre l'indépendance catalane, alors que l'Union a toujours soutenu celle du Kosovo. Explication Simon Rico.
La question de l'indépendance de la Catalogne ne fait pas seulement polémique en Espagne. Dans les Balkans, on regarde aussi avec attention et méfiance ce qu'il se passe du côté de Barcelone et de Madrid. Il faut dire que pour justifier leur initiative, les séparatistes catalans ont souvent pris en exemple la trajectoire du Kosovo, qui a proclamé unilatéralement son indépendance le 17 février 2008. Celle-ci a immédiatement été reconnue par les instances de l'Union européenne, malgré l'opposition de 5 États membres, dont l'Espagne. La Serbie, qui considère toujours le Kosovo comme partie intégrante de son territoire, s'indigne de l'incohérence de Bruxelles dans ces deux dossiers complexes. C'est le meilleur exemple du deux poids deux mesures et de l'hypocrisie de la politique internationale. En Catalogne, le référendum est anticonstitutionnel et au Kosovo, tout est possible sans même un référendum, s'est agacé le président serbe Aleksandar Vučić. Quant au ministre des Affaires étrangères, Ivica Dačić, il a qualifié la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo d'erreur commise par l'UE, expliquant que cela avait ouvert la boîte de Pandore. La Serbie et le Kosovo sont engagés depuis 2011 dans un processus de dialogue placé sous l'égide de Bruxelles avec l'objectif de normaliser leurs relations. Ces négociations sont au point mort depuis de longs mois, alors même que la question kosovare constitue l'un des principaux points de blocage au processus d'intégration européenne de la Serbie. En 2014, le Kosovo avait déjà été pris en exemple par Vladimir Poutine pour justifier son référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie, le chef du Kremlin regrettant que la diplomatie occidentale ait choisi de traiter les deux cas de manière différente.
Ils sont moins connus que leur grand frère le Vésuve. Et pourtant, ils sont identifiés comme parmi les volcans les plus dangereux d'Europe. Les champs Flégréens, c'est leur petit nom, situés à 10 km de Naples, sont en fait un ensemble d'une trentaine de volcans. Et ils ont récemment fait l'objet d'une étude alarmiste. Ils seraient prêts à entrer en éruption d'un moment à l'autre. Ce scénario inquiète peu les habitants qui vivent sur le flanc du volcan. Le reportage de Cécile Debarge à Pouzol, une ville installée au milieu du cratère.
Alors juste pour faire comprendre la consistance du sol où on se trouve, voilà.
Ce bruit sourd et glaçant, c'est celui de l'énorme pierre que Giuseppe Iocardo vient de jeter par terre, au cœur de la Solfatara. Ce site est l'une des principales caldeiras des champs Flégréens, c'est-à-dire une sorte de gros cratère de volcan à fond plat.
Le bruit se propage jusqu'à 10 mètres de profondeur sous nos pieds, où il rebondit sur la trachyte, une roche volcanique.
Impossible en revanche de savoir à quelle profondeur se trouve le magma du volcan, tant la communauté scientifique est divisée sur la question. L'unique certitude est que le volcan est actif, comme le prouve cette récente découverte.
Et là, voilà ce qu'on a sous nos pieds.
Une large brèche fend le sol, laissant s'échapper une sorte de boue grise épaisse composée essentiellement d'argile.
La dernière température relevée est d'environ 85 degrés. Il n'y a pas d'ébullition. Ces bouillons sont dus en fait à la pression des gaz qui remontent.
Ces gaz, eux, sont produits par le volcan et remontent vers la surface en provoquant des fumerolles ou encore des bouillonnements comme celui récemment découvert. Des phénomènes naturels d'autant plus surveillés à la Solfatara que le site se trouve au beau milieu de la ville de Pouzol et que le cratère est entouré par des immeubles HLM et des centaines d'habitations. Giuseppe Iocardo.
Sur une échelle de 1 à 4, Pouzol est au niveau de danger 2. Passer au niveau 3 impliquerait que tous les habitants pourraient quitter les lieux. Et dans ce cas, la difficulté, ce serait que l'État devrait leur garantir un relogement.
Au total, près d'un demi-million d'Italiens vivent au-dessus de ces anciens volcans, aujourd'hui couverts par 5 villes moyennes en périphérie de Naples. Une situation qui suscite de manière générale peu d'inquiétude auprès des habitants, comme l'explique Maria Laura Longo. Cette jeune sociologue est née et vit à Pouzol.
En réalité, nous, les habitants de Pouzol, on vit en permanence ce risque sous nos pieds. On sait que les différentes bouches de cette caldeira sont très actives, mais on l'affronte de manière assez détendue. On s'y est habitué. On préfère voir les ressources que cela nous procure, comme la géothermie, même si c'est encore peu exploité.
Un optimisme et une résilience récemment mises à rude épreuve par les publications de la communauté scientifique internationale. En début d'année, plusieurs journaux locaux, repris ensuite par une grande partie de la presse, ont créé un vent de panique en titrant sur les méga-volcans prêts à se réveiller et à tout détruire. Pourtant, l'étude scientifique pointait surtout le réchauffement du volcan depuis plusieurs décennies et plusieurs signes d'activité nouveaux, explique Maria Laura Longo.
À partir du moment où il y a des études scientifiques, et en ce moment, il y en a vraiment beaucoup, tout est réinterprété ou tout au moins diffusé de manière très alarmiste par les médias grand public ou les réseaux sociaux.
Ces spéculations s'expliquent aussi par la méconnaissance relative de ces volcans que sont les champs Flégréens. À quelle profondeur se trouve le magma? En quelle quantité se trouve-t-il? Où remontera-t-il à la surface? Et surtout quand? Toutes ces questions restent aujourd'hui sans réponse et ont obligé les autorités locales à se préparer au pire. Cinzia Kraus a réalisé le plan d'évacuation de la ville pour la mairie de Pouzol. Si le risque passait au niveau 3 sur 4, contre 2 actuellement, tout devrait être évacué en 3 jours.
On aura 72 heures. Les 12 premières heures seront destinées à signaler les voies d'entrée et de sortie pour évacuer et pour positionner sur le territoire les forces d'intervention. Pour les 48 heures suivantes, il faudra évacuer. Et enfin, les 12 dernières heures, on mettra les lieux en sécurité pour permettre aux forces d'intervention de repartir.
Un scénario similaire à celui prévu par les communes autour du Vésuve. À la différence que les informations scientifiques sont bien plus nombreuses et précises pour le Vésuve, notamment car sa dernière grande éruption remonte à la période de la Deuxième Guerre mondiale.
On pense qu'on aurait environ 14 jours pour se préparer. En revanche, c'est différent pour une caldeira où les temps sont bien plus courts. On n'a aucun point de comparaison historique. Et à travers le monde, on a beaucoup d'exemples de calderas qui explosent le soir après s'être réveillés le matin même.
La dernière éruption des champs phlégréens, elle, remonte à 1538.
Les jeunes européens.
Bonjour Amino.
Bonjour Catherine.
Alors hier, un mardi, le président français inaugurait avec son homologue allemande Angela Merkel la Foire du Livre de Francfort, l'un des grands rendez-vous annuels de la culture en Europe. L'occasion pour le chef de l'État français de révéler un peu ses intentions en matière de culture, notamment pour la jeunesse, Eve.
Comment rapprocher la jeunesse de la culture? C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'ambition et l'idée d'Emmanuel Macron, qui compte bien sur la culture pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe des jeunes Européens. L'occasion était trop belle. Cette année, l'invité d'honneur du salon est la France, ce qui n'était pas arrivé depuis 1989. Quelques petites choses se sont passées depuis. Et événement qui tombe à pic pour tester quelques idées neuves pour les années à venir, neuves ou recyclées, avec les ministres de la culture européens présents dans l'assistance.
Alors, le président français a notamment annoncé son souhait de mettre au point un Erasmus des artistes.
Après les études universitaires, puis l'apprentissage, le sport et les créateurs d'entreprises, le chef d'État veut ouvrir le programme d'échange à une nouvelle catégorie de jeunes, les artistes. L'idée est séduisante, reste à voir comment et quand elle pourrait se mettre en place. On suivra de près, pour vous, ce dossier dans Accent d'Europe.
Alors surtout, Emmanuel Macron veut mener à bien son projet de créer un pass culture européen qui s'inspire un peu du modèle italien.
Oui, même si pour l'instant, là aussi, le projet gouvernemental est encore assez flou. La ministre de la Culture française a bien annoncé cet été son intention de copier l'idée du bonus cultura, mis en place par le gouvernement de Matteo Renzi en 2016. Un chèque qui devait permettre à tous les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans de dépenser 500 euros dans les activités culturelles de leur choix. Alors ça peut être achat de livres, billets de cinéma ou encore sortie au musée, au théâtre ou à des concerts. L'idée étant que cette initiative soit cofinancée par les plateformes numériques qui vendent ce genre de billets ou de biens culturels.
Et alors Eve, presque un an plus tard, quel bilan peut-on tirer en Italie de la mise en place de ces chèques culture?
Eh bien, le bilan est plutôt en demi-teinte. Selon les médias italiens qui ont enquêté sur leur utilisation, seulement 60% des jeunes concernés se sont inscrits sur les sites internet pour avoir accès à ces chèques, soit un total de 350 000 personnes environ. Selon certains groupes Facebook créés autour de l'initiative par des jeunes, cet échec relatif est surtout dû au fait que les jeunes eux-mêmes auraient par exemple préféré bénéficier d'un budget pour s'acheter des supports numériques, des tablettes, des téléphones portables. C'est en tout cas l'avis du jeune Tommaso Tossi, qui a 19 ans et qui a ouvert un groupe Facebook qui s'appelle 18 App, en référence au bonus cultura.
Alors à quoi ont servi ces chèques culture pour l'instant, Eve?
Les chèques ont été dépensés pour différentes utilisations. Selon les chiffres du gouvernement italien, 78% des dépenses sont allées à l'achat de livres, 12% dans les concerts, 9% dans les entrées au cinéma et seulement un petit pourcent pour le théâtre et la danse. Mais ces dernières semaines, le nombre d'inscriptions a fait un bond de 13% quand même depuis que le dispositif s'est ouvert à l'achat de musique.
Merci Eve Minot et on retrouve évidemment à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Catherine.
Jacob Rees-Mogg looks like a villain. A real nasty villain in a children's book. Oh, but he's so funny and he's so charming. Yes, so are villains. Just take a look. He tried to change times.
Et nous prenons la direction de la Grande-Bretagne, toujours empêtrée dans les négociations avec l'Union européenne, dont la lenteur exaspère les Brexiteurs les plus acharnés. Parmi les plus déterminés à accabler la première ministre Theresa May, l'excentrique, controversé et très aristocratique Jacob Rees-Mogg, nouvelle coqueluche des Tories. Marie Billon.
C'est une caricature de Britannique comme il n'en existe plus. Grand et longiligne, lunettes rondes à la Harry Potter et mèches sur le côté, Jacob Rees-Mogg est un pur produit de l'aristocratie anglaise. Âgé de 48 ans, élu député en 2010, il a connu une ascension fulgurante grâce à son excentricité. Impossible de ne pas le remarquer quand il prend la parole à la Chambre des communes.
I call Mr. Jacob Rees-Mogg for motion.
Thank you, Sir Gerald. May I add my congratulations to you becoming Father of the House in succession to the much regarded and loved Sir Peter Tapsell.
Son accent est à faire pâlir la reine.
I've made no pretense to be modern man.
Je n'ai jamais prétendu être un homme moderne, dit-il. Pourtant, il a publié son premier tweet le 15 juillet dernier en latin. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Les temps changent et nous changeons avec eux. Sauf que Jacob Rees-Mogg se fait une fierté de son immuabilité. Il vient d'avoir son sixième enfant avec la même épouse et il l'a appelé Sixtus. Il a aussi avoué n'avoir jamais changé une couche.
A nanny does it brilliantly.
La nounou le fait brillamment, dit-il. Nounou qui est d'ailleurs sa touche populo. Il a fait campagne avec elle pour montrer aux électeurs qu'il est proche du peuple. Toutes ces excentricités font rire les conservateurs. On parle de Mogmentum pour singer le mouvement Momentum du chef de l'opposition Jeremy Corbyn. Alors Jacob pour remplacer Theresa ? Sûrement pas, dit-il, même s'il semble apprécier l'attention qui lui est portée. On lui prête plutôt l'ambition de devenir speaker, président de la Chambre des communes. Son amour pour la pompe et les traditions serait en effet bien servi. Mais la couche de poussière qu'on imagine s'échapper de son veston à chaque fois qu'il le tapote n'est pas que drôle. Jacob Rees-Mogg est un réfractaire. Il est contre l'avortement en toutes circonstances. Il est contre le mariage gay et le quotidien The Guardian le décrit comme un climato-sceptique et un élitiste. Il est aussi un europhobe convaincu. L'un de ses arguments pro-Brexit préférés n'a cependant pas l'air très british. Une fois sorti de l'UE, Londres pourra lever la taxe sur l'import des grains de café torréfiés. La boisson chaude sera alors moins chère.
Un bunker anti-nucléaire transformé en galerie d'art, c'est à voir en Bosnie. Il s'agit du bunker de Tito, construit dans le plus grand secret entre 1953 et 1979. Il devait accueillir, en cas d'attaque nucléaire, l'ancien président yougoslave et 350 dignitaires. Depuis 2011, le bunker accueille une biennale d'art avec le soutien de l'UNESCO. Merci Anesic, nous emmène en visite avec un groupe de nostalgiques de Tito.
Camarades, resserrez les rangs. On y va, l'armée du camarade Tito.
Ce dimanche, un groupe de visiteurs plutôt âgés est venu du Monténégro voisin. Ici, ils retombent dans la Tito nostalgie. C'est l'infrastructure la plus chère héritée de l'ex-Yougoslavie. Tout le mobilier date de l'époque et au milieu de ces objets des années 50 ou 60 et bien trône des œuvres d'art contemporains. Les visiteurs s'étonnent.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une installation artistique, une œuvre d'art. Là, vous voyez cette image d'un soldat en uniforme sur le mur. Vous voyez que l'image est abîmée. Eh bien, symboliquement, l'artiste veut dire qu'il voudrait faire disparaître toute la période de la dernière guerre.
Des artistes de la région, mais aussi du monde entier, exposent ici grâce à une biennale. Les visiteurs aussi entre la Yougoslavie communiste, la guerre froide et l'art contemporain. Certains n'ont jamais mis les pieds auparavant dans un musée ou bien dans une galerie d'art, explique Mirnes Bajic, le coordinateur artistique. Pourtant, ces œuvres d'art éclairent le récit historique.
Vous ne pouvez pas dissocier le bunker et les œuvres d'art qui parlent de cette construction, de cet espace politique, des évolutions qu'on a connues. Le résultat ne serait pas du tout le même. Je pense que l'articulation qu'on a trouvée entre le récit de l'histoire militaire et ce qu'elle inspire à l'art contemporain est singulière. Sans elle, les visiteurs n'apprendraient rien.
Beaucoup voient en ce lieu un symbole de la grandeur passée de la région. Le communisme, c'était le temps de la fraternité. C'était avant les traumatismes, avant Vukovar, avant Srebrenica. L'ombre de Tito plane sur ce bunker bosnien.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants de journal.